Bien, bonjour à tous. Donc, c'est un grand plaisir pour moi aussi, pour nous aussi, d'être avec vous ce matin. Il n'est pas trop tard pour vous souhaiter une bonne année. Hein. Je crois que j'ai jusqu'à demain pour le faire. Donc, bonne année à vous tous hein, dans le Seigneur. Et puis, on a entendu des très bonnes choses là depuis ce matin, dans les chants qui ont été choisis, dans les prières qui ont été prononcées. On se fait du bien au culte et c'est un grand plaisir pour nous de partager ces moments avec vous. C'est une lourde responsabilité aussi de porter la parole. Hein. Vous savez que les enseignants nous seront jugés plus sévèrement, c'est ce que dit l'apôtre. Hein. Donc nous devons faire attention à ce que nous disons et c'est toujours avec crainte et tremblement qu'on se présente devant le Seigneur pour porter sa parole. Donc, je vous invite à lire un verset. Oh, c'est juste un verset. C'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, le verset 15. Lors de ma dernière venue, on avait vu une caractéristique, enfin, particulière de Dieu. On a vu que Dieu n'était pas exactement venu comme les gens de l'époque l'attendaient. Hein. Et Dieu parfois nous surprend. Donc, on est heureux de savoir que Dieu est bon, que Dieu est patient. Que Dieu est bienveillant, que Dieu est omniscient, il sait tout, il voit tout, il entend tout. Que Dieu est partout donc, qu'il est grâce. On aime bien savoir ça, on aime bien aussi savoir que Dieu est juste. Donc il y a des caractéristiques qu'on attend de la part de Dieu, il y a des caractéristiques qui nous semblent un peu bizarres. Et c'est un verset, donc moi qui m'a toujours surpris lorsque je le lis, vous savez, on lit certains passages et on accroche sur des versets plutôt que sur d'autres. Et ce verset-là m'a longtemps accroché. Et il m'accroche toujours, d'ailleurs. Donc, je le partage avec vous. Donc, je lis juste le verset d'avant aussi. « C'est auprès de toi seulement, Israël, que se trouve Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. » Et il y a d'autres passages hein, dans l'Écriture qui nous parlent de ce fait que Dieu se cache, ou que Dieu semble cacher, en tout cas. Donc je vous lis ces versets, ce n'est pas la peine de les chercher. Psaume 69, verset 17. « Ne cache pas ta face à ton serviteur, puisque je suis dans la détresse. » Psaume 102, verset 2. « Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. » Psaume 143, verset 7. « À toi de m'exaucer, ne me cache pas ta face. » Et enfin, Ésaïe 8, 17, « J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. » Vous voyez, c'est curieux, ces passages où il nous est dit que Dieu, quelque part, semble cacher sa face. Ça peut-être aussi se comprendre, parce que Dieu est tout à la fois. Hein. Et c'est une des caractéristiques de Dieu, c'est dans la parole, je crois qu'on ne doit pas l'ignorer. Alors quand on regarde en France quelques statistiques, vous savez que j'aime beaucoup ça, c'est un peu mon métier, et bien on se rend compte qu'il y a grosso modo une moitié de personnes qui ne croient pas en Dieu. Donc Dieu au sens large, hein, au sens d'intelligence supérieure qui aurait créé toute chose. Parce que des chrétiens protestants, évangéliques, on n'en trouve que 3% en France, enfin des Français se disent chrétiens évangéliques, protestants. Alors qu'il y a 40%, 40, 50%, ça, il y a des marges d'erreur, ça dépend des sondages que l'on regarde, de personnes donc qui ne croient pas en Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les raisons qu'elles donnent pour dire qu'elles ne croient pas en Dieu, et il y a des sites internet qui sont très bien faits là-dessus, parmi les raisons qu'elles citent, elles disent ne pas pouvoir croire en Dieu parce que Dieu ne se manifeste pas assez dans le monde qui nous entoure. Quelque part, Dieu est absent. On ne peut pas croire en un Dieu d'amour quand on voit tant de drames qui se déroulent autour de nous, quand on voit une augmentation sans précédent des famines, des guerres, de l'injustice, des milliers d'enfants qui meurent tous les jours de faim. Il n'est pas possible qu'un Dieu laisse faire cela. Donc on comprend bien ce genre d'argument. Hein. Que fait Dieu là-dedans? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Donc c'est une problématique que l'on connaît bien, et c'est intéressant de pouvoir regarder ces choses-là de près. Et il me semble qu'une des premières raisons hein, pour lesquelles on peut être certaines personnes donc refusent de croire en Dieu, on met Dieu de côté, c'est parce qu'ils se sont fait une image de Dieu qui ne correspond pas à l'image, en quelque sorte, qu'ils voient dans le monde qui les entoure. Et à partir de quelques éléments concernant Dieu, parfois certains ont des souvenirs de catéchisme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fréquenté l'Église catholique en France, donc ils ont des vagues souvenirs de catéchisme, voire d'école du dimanche, ou à partir peut-être de désirs personnels sur ce que nous voudrions, sur ce qu'ils voudraient que Dieu soit, ils se sont fait un portrait robot, une image de Dieu, mais ce portrait de Dieu ne correspond pas à la réalité de ce que Dieu est et de comment Dieu fonctionne. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous faire une fausse idée de personne juste à partir de quelques messages échangés, courrier électronique ou coup de téléphone. Parfois, je suis en contact avec des personnes juste au téléphone et quand je dois les accueillir à la gare, eh bien, je suis surpris de les voir. Je me dis, bah, tiens, je l'imaginais ou plus petit ou plus grand ou différent. On se fait souvent des fausses idées sur les gens quand on se base juste sur quelques impressions. Ma belle-mère, donc chez qui on a passé là un petit week-end, me rappelait hein, ce proverbe italien. Alors je ne sais pas si c'est la source exacte. Pour connaître une personne, il faut avoir mangé un kilo de sel avec. Enfin un kilo, il a dit, oh, mais c'est plus que ça en fait, hein. Plus que ça. Donc manger un kilo de sel, je ne sais pas comment vous salez vos repas, mais bon, on y va doucement hein, avec la salière. En plus, il paraît que c'est mauvais pour la santé. Mais voilà, kilo de sel, ça fait du temps. Hein. Donc voilà, pour connaître les gens, il faut passer du temps avec. Et je crois qu'il en est de même avec Dieu, avec le Seigneur. Il faut passer du temps avec le Seigneur pour le connaître. Et certains, je crois, même parmi les chrétiens, s'en font une idée qui est en fait une idée partiellement juste, hein, donc un peu fausse aussi, parce qu'ils ne le connaissent pas assez, ils ne passent pas assez de temps avec. Je ne sais pas, vous, combien de temps vous arrivez à passer seul dans votre chambre avec le Seigneur, avec sa parole. Hein. C'est vrai que c'est un défi hein, quand on travaille, quand on a des enfants, quand on a tout ce qui s'accumule dans une journée. Mais c'est un temps qui est béni, ce temps que l'on passe seul à seul avec le Seigneur. Et on a besoin de ce temps passé. Et on va y revenir là-dessus. Donc on a malheureusement... ou heureusement, puisque c'est pour notre instruction, hein, dans l'Écriture, un exemple assez fort hein, d'un peuple qui s'était fait une fausse idée de Dieu. On sait que le Dieu de la Bible donc, s'est manifesté progressivement aux Israélites. On l'a lu au début, là, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu. C'est un verset qui est très fort, qui est dans l'Écriture. Et on sait que tout l'Ancien Testament prépare progressivement les Israélites à rencontrer de façon précise Dieu. Les prophètes ont dit à de multiples reprises, voilà, Dieu va envoyer un sauveur, il sera le descendant du roi David, il va rétablir la paix sur la terre, il fera des miracles extraordinaires. Les yeux des aveugles vont s'ouvrir, les oreilles des sourds, etc. etc. Dans l'Ancien Testament, jamais on a vu un aveugle être guéri. C'est Jésus qui a accompli ce genre de miracle extraordinaire. Donc les prophètes, il y a plusieurs centaines de prophéties qui parlent de la venue de Christ. Et on en avait un peu parlé la dernière fois, on a vu que lorsque le Seigneur est venu en Jésus-Christ, exactement comme il avait prévu de le faire, et non comme les hommes l'espéraient, eh bien, la rencontre ne s'est pas toujours bien passée. Peut-être, on l'avait rappelé la dernière fois, que les gens attendaient une sorte de grand guerrier monté sur des chevaux de feu avec les éclairs à la main qui aurait chassé les Romains, qui aura exterminé les païens, les ennemis et tous les gens qui les gênaient dans leur vie. Et on a vu que l'autre fois que Dieu en fait avait choisi de venir sous la forme d'un enfant qui naît dans une crèche, dans une famille pauvre, il ne faisait pas partie de la noblesse religieuse de l'époque. On sait qu'il ira vers les petits hein, de la société, il va aller vers les prostituées, vers les péagers, vers les lépreux, vers les femmes, à la grande surprise des religieux de l'époque. Certains, on l'a vu, hein, le reconnaîtront, mais on a vu que la majorité religieuse de l'époque allait passer à côté, complètement passer à côté. Les responsables ne le reconnaîtraient pas. Et si on regarde donc les choses de près, on voit que Jésus-Christ a été rejeté dès le début de son ministère, dans la ville où il a grandi, à Nazareth. On le voit dès le début de l'évangile de Luc, en Luc 4. Hein. Lorsqu'il a guéri un démoniaque en territoire païen, les gens l'ont supplié de partir. Je ne sais pas si ça vous a surpris, cette histoire. Ils ont supplié Dieu, enfin Jésus-Christ, je t'en prie, pars d'ici. Reste pas là. Ils n'avaient pas compris qu'aux yeux de Dieu, le salut d'un homme est plus précieux que la vie des cochons qu'ils avaient. Il y a eu aussi l'histoire des marchands du temple, hein, qui ont évidemment perdu leur gagne-pain, en tout cas pendant un temps. Ils n'avaient pas compris qu'on ne marchande pas avec Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ, entre autres, voulait leur apprendre. Et il y a un parti qui s'est particulièrement opposé à Jésus, je l'appelle le top 90, ce sont les pharisiens. Parce qu'à 90 reprises dans les évangiles, Dieu nous mentionne, enfin, par le Saint-Esprit, hein, nous mentionne ces altercations entre Jésus-Christ et les pharisiens. Il y avait trois partis religieux hein, à l'époque. Donc il y a les pharisiens, il y a les sadducéens et il y a les esséniens. La Bible ne parle que des pharisiens et des sadducéens. Les sadducéens s'occupaient plutôt du temple et faisaient partie d'une classe sociale très élevée. Les pharisiens, eux, avaient la responsabilité des synagogues. Ils étaient environ 6000 et faisaient partie des classes moyennes. Alors, il ne faut pas leur jeter complètement la pierre, parce que les premiers pharisiens, enfin, du début, hein, c'était des gens droits, c'était des gens courageux. Et il faut bien comprendre que leur but, c'était d'expliquer la loi de Moïse à leurs contemporains. Ils voulaient les faire grandir, en quelque sorte, les aider à appliquer la loi de Moïse. Donc ils avaient, en quelque sorte, écrit un commentaire biblique, hein, où ils expliquaient ces commandements pour les rendre plus clairs à leurs contemporains, pour qu'ils appliquent la loi de Dieu, pour qu'ils plaisent à Dieu. Donc ça part d'un bon sentiment. Et on sait malheureusement ce qu'il s'est passé. Ils ont déraillé. Ils sont allés trop loin. Et ils ont laissé tomber l'essentiel. Hein, c'est ce que le reproche que leur fera Jésus. Jésus sera d'ailleurs très patient avec eux. On peut le voir lorsqu'on étudie le passage. Mais ils avaient, comme le dit Jésus-Christ, négligé l'amour et la justice de Dieu. Ce qui est central, on le sait. Hein, négliger l'amour et la justice de Dieu. Eux, qui croyaient être le top du top des croyants, Jésus-Christ leur a dit qu'ils n'étaient que des comédiens, des clowns, des hypocrites. Hein. Hypocrites, ce sont des comédiens, c'est des gens qui ont deux faces. Hein. Bref, pour nos pauvres pharisiens, Dieu était caché. Ils ne l'ont pas reconnu alors qu'il était juste devant leur nez. Eux qui souhaitaient, au début en tout cas, hein, être près de Dieu, vraiment se sanctifier, ont complètement raté. Et ils ont aussi, et c'est ce qui est grave, hein, découragé d'autres personnes dans leur entourage de rechercher Dieu, probablement. Et c'est pourquoi je vous mentionne ça. Parce que sur les sites internet dont je vous parle, donc de gens qui ne croient pas en Dieu, des sites athées, etc., parmi les raisons qu'ils mentionnent pour dire qu'ils ne croient pas en Dieu, il y a l'hypocrisie des croyants, de certains croyants. Donc l'hypocrisie est un vrai venin. Hein. Je crois que c'est important de voir que, ben voilà, il y a eu un groupe hein, dans les évangiles qui est complètement passé à côté, parce qu'ils étaient orgueilleux, parce qu'ils étaient hypocrites, parce qu'ils croyaient qu'ils étaient le top du top, alors qu'en fait c'était rien du tout. Il y a un pasteur qui dit que spirituellement, quand on croit qu'on est au top, ça veut dire qu'on est tout en bas. Parce que plus on est proche de Dieu, plus on se rend compte qu'on n'est rien. Alors je vous donne la réflexion comme ça, hein. Mais je crois que c'est pas complètement faux. Voilà. Donc pour nos pauvres pharisiens, mais ils avaient une mauvaise conception de Dieu et ils sont complètement passés à côté alors qu'il était devant leur nez. Mais bon. Nous, j'ai envie de dire, on est prévenus, je crois qu'on fait attention hein, à ce genre de choses, à ne pas tomber dans le légalisme, ni dans le laxisme. Hein, l'évangile est équilibre. Mais je ne sais pas si c'est votre avis, mais il y a quand même, enfin moi en tout cas, j'ai l'impression que parfois, les choses seraient plus simples si Dieu se manifestait un peu plus, s'il était juste un petit peu plus visible. C'est-à-dire quand j'ai envie qu'il soit visible, j'aimerais bien qu'il puisse se voir. Notamment, je ne sais pas, quand vous faites de l'évangélisation ou quelque chose. Moi, je me rappelle que quand je parlais à des personnes, puis bon, elles dénigraient Dieu, etc. Mais je dis, Seigneur, si t'envoyais un petit signe là, maintenant, quelque chose qui... Ça m'aiderait. Enfin, je ne sais pas si ça vous arrive, ce genre de choses. Et plus sérieusement, on a eu un passage à vide difficile. On a eu un temps d'église assez délicat parce qu'il y aurait beaucoup de choses à faire au Havre et on manque de bras. Et c'est décourageant, vous voyez, de voir tout ce qu'il y a à faire et voir que vous ne pouvez pas répondre. Même si notre but, c'est de servir Dieu, et puis Dieu pourvoira, hein, au-delà des choses. Mais donc, j'ai vécu un temps vraiment de découragement. Et à un moment donné, je me rappelle, je rentrais du culte en voiture, mais j'ai dit, mais Seigneur, mais tu es où? Voilà, j'étais énervé. Et vous savez, le Seigneur, quand on est comme ça, ce qu'il fait, il dit rien. Il attend. Il ramène le calme. C'est l'histoire de la tempête. Hein. Il ramène le calme et après il parle. Très bien. Et c'est ce qui a donné cette prédication d'aujourd'hui. Vous voyez, Dieu se cache, etc. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite anecdote. Hein. Donc, voilà. Parfois, il nous semblerait que les choses seraient un peu plus simples si Dieu était un peu plus visible, s'il se manifestait. Notamment quand on a des problèmes. Je ne sais pas si c'est votre avis. Alors, bonne nouvelle, on l'a dit tout à l'heure dans une prière, c'est que Dieu apparaîtra devant tous à la fin des temps. Oui, Dieu va être très visible. À un moment donné, tout le monde le verra. Et tout genou fléchira devant lui, ça on le sait. Donc ça va se passer. Mais nous, on le voudrait bien sûr pour notre vie actuelle, on aimerait que ça se passe. Alors, quelle réponse on peut donner à ça? Moi, je crois que Dieu, parfois, nous semble caché parce qu'il y a de toute façon une grande distance entre lui et nous. Parfois, dans le cas du péché. On sait très bien qu'il nous le dit dans Ésaïe chapitre 59, les versets 1 et 2, ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. S'il y a un péché dans notre vie, il y a un mur entre nous et Dieu. C'est clair. Et ça peut être une chose. Deuxième argument, Dieu est Dieu. Il nous le rappelle dans Ésaïe chapitre 55, verset 8, il dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées ». Dieu est Dieu. Il sait tout. Il voit tout. Il a l'intelligence du futur. Donc, il sait mieux que nous ce qui nous convient. Donc, moi, je sais que ça m'a fait du bien de me rappeler ça, de me rappeler cette chose-là, parce que c'est une chose importante. Enfin, Dieu semble caché, me semble-t-il, parce qu'il nous faut faire l'effort de le trouver. Parce que Dieu veut que nous ayons à son égard une attitude, une démarche de recherche. Et on voit cela plusieurs fois dans les Écritures. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'épisode des disciples d'Emmaüs. Lorsque Jésus est avec eux, il leur fait une véritable étude biblique. J'aurais vraiment aimé être là à ce moment-là. Et il leur a expliqué donc plusieurs choses. Et à la fin de la discussion, il y a un verset qui est troublant qui dit « Jésus parut vouloir aller plus loin. Il fait mine d'aller plus loin. » pour que les autres le rappellent et disent « Non, viens avec nous ». Voyez cette idée? Dieu, je crois, veut qu'on ait cette démarche de recherche. Et pédagogiquement, c'est génial. Si vous retenez qu'un mot de cette prédication, retenez que Dieu est génial, vraiment génial. Je le pense sincèrement. Donc, et je crois que si on a cette démarche, notre foi sera plus profonde, parce qu'elle sera expérimentée. On l'aura vécue. C'est pas quelque chose, enfin on le sait très bien ça en tant qu'enseignant, quand on donne des choses comme ça à des étudiants, ils ne retiennent pas ça. Ils ne retiennent que ce qu'ils pratiquent, que ce qu'ils voient, que ce qu'ils manipulent. Et il y a cette démarche avec Dieu. Dieu veut qu'on le cherche. Et il y a une bonne nouvelle à la fin, heureusement. Enfin, autre argument, à mon avis, c'est que Dieu semble caché parce que c'est librement que nous devons aller à sa recherche. Dieu ne s'impose pas. Il recherche des personnes qui vont décider en conscience, qui vont décider librement de le servir et de l'adorer. On l'a dit tout à l'heure, hein, Dieu recherche des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu ne force personne. Dieu ne s'impose pas. La foi est un acte de raison. Hein. Et il y a un verset magnifique que l'on cite souvent dans l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 20, qui nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend et m'ouvre, alors j'entrerai. » Donc c'est un verset magnifique hein, qui nous dit qu'en fait, Dieu est là, juste à côté. Mais Dieu ne force pas le passage, Dieu ne défonce pas les portes, même si c'est vrai, on a une conversion très particulière, si on pense à l'exemple de la conversion de Paul, enfin de Saul de Tarse, où vraiment il a vu Jésus là, devant lui, et puis bon. Mais je crois que c'est une exception. Hein. Mais Dieu nous explique cette chose-là. Dieu ne défonce pas les portes. Il est derrière et il frappe. Il suffit de l'entendre et d'ouvrir et il est là. Et ça, je crois que c'est une bonne chose. Et il ne faut pas oublier cela, que Dieu est présent. Mais il y a une dernière chose qui est très, très encourageante. C'est que, certes, Dieu se cache parfois, mais Dieu se laisse toujours trouver. Et ça, c'est quelque chose qui est encourageant. Si notre recherche est sincère, il mettra en marche tout ce qui est à sa disposition pour que nous ne rentrions pas bredouilles. Dieu ne nous abandonnera pas sur le bord du chemin. Si vraiment on le cherche, on va le trouver. Et on sera parfois surpris. Parce que Dieu répond souvent au-delà de ce qu'on demande. Et c'est ça qui est formidable. Et il y a un verset pour ça un passage dans l'Écriture que vous connaissez bien, d'un homme qui cherchait Dieu. Il cherchait à comprendre dans l'Écriture. Il y avait un passage qu'il n'arrivait pas à voir. C'était dans Actes, chapitre 8. Hein, c'est l'eunuque éthiopien qui vient à Jérusalem pour adorer. Il a fait un très long voyage. Et bon, il cherche à comprendre un passage dans l'Écriture. Eh bien, Dieu va lui envoyer un gars qui s'appelle Philippe. Et je crois que Dieu placera sur notre route des Philippe à l'appel si on en a besoin. Hein, Dieu est comme cela. Et c'est rassurant de voir que Dieu est là, que Dieu répond en son temps. On a eu un exaucement particulier cet été. C'est une petite anecdote, mais je crois que c'est bon que je vous la cite, c'est encourageant. Donc on a un fils qui fait des études à Paris. Donc pour ceux qui ne savent pas, à Paris, c'est très dur de se loger. Voilà. Je crois que Grenoble, c'est pas simple, mais Paris, c'est encore plus compliqué. Et donc, on avait trouvé un appartement, enfin une chambre, parce qu'on loue pas des appartements, sinon c'est... Enfin bref, on peut pas là-bas, on loue des chambres, d'accord ? Donc on avait loué une chambre, ok, et 3 jours avant la rentrée, le propriétaire donc, de la chambre appelle, en disant que finalement, les travaux, ils n'avaient pas pu se finir, donc ils pouvaient pas louer la chambre. Donc il fallait qu'on se débrouille. Enfin, en résumé, c'était ça, hein. Voilà. Donc c'était un peu embêtant, vous imaginez. Donc moi, j'ai pas su ça tout de suite. Je rentre du travail le vendredi, c'était le dernier vendredi du mois d'août. Je rentre du travail, je vois Marie-Christine en pleurs. Je dis, oh là là, il y a sûrement quelque chose de pas sympathique qui s'est passé. Et elle me raconte ça, je dis d'accord. Alors bon, c'était le week-end, j'ai dit, de toute façon, on ne peut rien faire. Mais curieusement, si vous voulez, je n'étais pas inquiet. Pourtant, on avait toutes les raisons de s'inquiéter. La rentrée, c'était 3 jours après. Rechercher une chambre à Paris en 2 jours, bon, c'est impensable. La seule solution qu'on pensait, c'était l'hôtel. Mais l'hôtel là-bas, je ne sais pas si vous avez regardé, mais une nuit d'hôtel, c'est 15 jours de salaire. Enfin bref. Voilà. Donc c'était impensable. Mais quelque part, je n'étais pas inquiet. Et pourtant, ma raison me disait, mais attends, il n'y a rien derrière. Mais je n'étais pas inquiet. Et le lendemain matin, toujours dans mon culte, là, et c'est Joe qui m'y a fait penser tout à l'heure. On ne s'est pas concerté avec Joe. Joe, il a lu le psaume 145. Mais il a eu une excellente idée de lire le psaume 145, Joe. Mais il aurait pu continuer plus bas. Il y a un passage encourageant plus bas. Joe dans le psaume 145. Alors, je vous lis la suite que Joe n'a pas lue. C'est à partir du verset 17. Mais il a bien fait, vous voyez, comme quoi le Seigneur dirige toutes choses. L'Éternel est juste dans toutes ses voies. Il est miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. C'est ce que je vous disais tout de suite. Dieu est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel. Donc moi, le verset qui m'avait marqué, si vous voulez, c'était les versets 18 et 19. « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. » Et j'ai vraiment reçu ce verset-là en disant « Ok, le Seigneur va gérer. » Une demi-heure après, le lycée où est mon fils donc appelle en disant « Bah voilà, on a une personne qui s'est désistée à l'internat, il y a une chambre de libre, est-ce que ça vous intéresse ?» Devinez ce qu'on a dit, quoi. Non, finalement, on n'a pas besoin. Non, on a dit oui. Alors qu'il ne s'était pas du tout manifesté, on lui avait dit que l'internat, il ne l'aurait jamais. Enfin, c'était... Voilà. Et la personne a appelé juste à ce moment-là, plein mois d'août. samedi matin. Vous connaissez beaucoup de lycées qui appellent le samedi. Enfin bref. Donc il a appelé un samedi matin. Et le numéro de la chambre, c'est le numéro 7. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc pour nous, c'était clair. Donc c'était clair que le Seigneur voulait que notre fils soit à Paris cette année. Voilà. Pour l'année prochaine, je ne sais pas. Mais vous voyez ce genre de choses? Donc, voilà. Donc dans la même année, je dirais, on a eu bon, des temps difficiles, puis des temps plus heureux. Donc le Seigneur est tout à la fois, mais il est génial. Je vous cite un verset, c'est un passage de l'évangile de Jean, pour terminer. On en a lu un tout à l'heure, un passage qui était magnifique, où c'est une promesse de Jésus-Christ. Promesse magnifique. Est-ce que vous voulez que Dieu se manifeste dans votre vie? On a envie de ça. Eh bien, il y a une promesse dans l'Écriture, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 14. C'est autour du verset 21, je vous le lis. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » C'est une promesse. « Je me manifesterai à lui. » Si vous voulez que Dieu se manifeste dans votre vie, là, vous avez la clé. Alors ça, on parle de la manifestation, j'ai envie de dire, pour les chrétiens, mais il reste les gens qui nous entourent, hein, qui trouvent quand même que Dieu ne se manifeste pas assez. Et pour ça, je vous raconte juste une petite histoire. Ça se passe à l'école du dimanche, alors je ne sais pas, ça peut peut-être se passer là. Et c'est... La monitrice a demandé de faire un dessin, et puis il y a un enfant qui dessine quelque chose, et sa monitrice passe, il dit « Mais tiens, qu'est-ce que tu dessines ?» Elle dit « Je dessine Dieu. » Elle dit « Mais mon pauvre ami, Dieu est invisible. » Personne ne sait à quoi il ressemble, tu ne peux pas dessiner Dieu. » Il dit « Oui, mais quand j'aurai fini mon dessin, les gens sauront à quoi il ressemble. » Alors, évidemment, on dit « Bon, il est gentil, le gamin, mais ce n'est pas si absurde que ça. » Parce que quelque part, je crois que nous, on est appelés chrétiens à approfondir notre relation avec Dieu pour le rendre plus visible autour de nous. En quelque sorte, on est en train de faire un dessin quelque part. Notre vie est un dessin de ce que Dieu fait dans nos vies. Et on est appelé à cultiver cette relation avec Dieu de telle sorte que Dieu soit visible autour de nous, parce que c'est encore un choix de Dieu. C'est Éphésiens 3:10, et ce sera mon verset de la fin. « Dieu a choisi de faire connaître par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Dieu nous a choisis pour que nous fassions connaître aux autres, pour que Dieu soit un peu moins caché autour de nous. Dieu veut nous utiliser. Dieu n'a pas du tout besoin de nous. Mais Dieu veut nous utiliser, c'est encore une grâce. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est un plaisir d'être avec vous et je vous propose de prier pour terminer. Père Céleste, on te remercie pour ce que tu es. Merci Seigneur pour ta pédagogie à notre égard, pour ta patience infinie. Parce que toi, Seigneur, tu bâtis les choses sur le roc. Tu ne bâtis pas les choses pour l'apparence, mais tu transformes les gens en profondeur. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Et merci, Seigneur, pour Jésus-Christ, lui qui a tout pris, Seigneur, qui a subi les choses les plus épouvantables pour que nous puissions avoir la vie. Qu'il puisse, Seigneur, que nous puissions nous souvenir de ces choses chaque jour de notre vie. Et je te prie de bénir, Seigneur, les bien-aimés qui sont là, ainsi que leurs conducteurs, Seigneur. Et merci encore pour la grâce de vouloir nous utiliser, dans le beau nom de Jésus. Amen.